Bonjour et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir parmi vous. Et ce matin, comme il a été dit, nous allons lire 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. On lit souvent ce texte dans les cérémonies de mariage, et c'est très bien. Mais en réalité, il n'a pas été spécialement écrit pour les couples. Car il se trouve au cœur d'un enseignement sur les rencontres de l'Église, dans les chapitres 11 à 14 de 1 Corinthiens. Cet amour si beau, si fort, nous sommes donc appelés à le vivre en Église. Alors, vous me direz déjà, avec un conjoint, c'est pas toujours très simple, mais entre nous tous, ça paraît vraiment impossible. Alors, une chose qui peut nous rassurer un tout petit peu, c'est que l'apôtre Paul ne s'adresse pas du tout, mais alors pas du tout, à une Église modèle. En effet, il tente de remettre de l'ordre dans cette église de Corinthe, traversée par des divisions, des querelles, de l'immoralité sexuelle, des procès entre frères et sœurs, bref, c'est pas terrible. Et Paul n'est pas tendre avec les Corinthiens. En parlant de la Sainte Cène, par exemple, il leur dit au chapitre 11, verset 17, « Je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. » Alors, je ne sais pas si on oserait aujourd'hui encore reprendre des frères et sœurs dans nos églises avec une telle audace. Devant les problèmes de l'église de Corinthe, l'apôtre Paul aurait pu déprimer en disant « Mais c'est peine perdue. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Leur foi ne produit aucun changement. » Dans leur vie, ils se disent chrétiens, chrétiens littéralement, ça veut dire petit Christ, mais en réalité, ils leur ressemblent si peu. Mais non, Paul ne se décourage pas, sans se lasser, il enseigne, il prie, et il espère bien sûr que ses croyants grandiront dans leur foi afin de vivre dans l'amour du Seigneur. Les Corinthiens étaient si zélés qu'ils voulaient se montrer tous plus spirituels les uns que les autres, avec le parler en langue, les prophéties, toutes sortes de choses qui épatent un peu la galerie. Mais Paul ne se laisse pas impressionner par leur exubérance. À la fin du chapitre 12, où justement il leur a parlé des dons spirituels, il leur dit « Aspirez aux dons les meilleurs », c'est-à-dire « Soyez spirituels, oui, c'est très bien ». Mais il ajoute « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et c'est là que Paul plante son magistral hymne à l'amour. Et je vous invite à lire le début de ce chapitre, les 3 premiers versets. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Parler en langue, y compris celle des anges dans le ciel, est-ce que ce n'est pas une expérience parmi les plus fabuleuses qu'un être humain puisse vivre? Et pourtant, dit l'apôtre Paul, si je n'ai pas l'amour, littéralement, il dit, je suis un bronze de son ou une cymbale qui crie longuement, ah là 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 là. Parce que quand on frappe un bronze, eh bien, ça produit une longue résonance, un peu comme ces pleureuses qui, à l'époque, criaient « Ah là 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 » derrière les cortèges funèbres. C'est cette image-là que Paul emploie. Il dit « Si je parle en langue mais sans l'amour, eh bien ça se résume à prononcer « Ah là 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 » dans un pitoyable brouhaha général. » Parce qu'en effet, parler n'est pas un but en soi. Cela permet d'entrer en relation, de partager, de s'encourager les uns les autres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un moulin à paroles qui ne prend pas le temps d'écouter. L'autre devient alors un simple réceptacle de l'expression de mon ego. Au contraire, L'amour me pousse à parler, pour échanger, pour apprendre à connaître l'autre. Les Corinthiens étaient si fiers de leur parler en langue avec des mots incompréhensibles qui font très spirituel, voire très savant. Mais Paul discerne qu'il y a plusieurs dangers à cette pratique. D'abord, que les plus doués dans la parole utilisent le culte pour se vanter d'être les plus spirituels, alors que la vraie spiritualité, en réalité, c'est de placer Jésus-Christ au centre de nos vies, bien sûr. Et puis un second danger, c'est de communiquer des paroles sans véritable contenu. L'émotionnel prend toute la place. Chacun parle et plus personne n'écoute. Et puis évidemment, une telle atmosphère ne favorise pas l'écoute de Dieu. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire que l'apôtre Paul soit contre ou le parler en langue ou qu'il le méprise. Non, pas du tout. Puisqu'il dit au chapitre 14, « Je désire que vous parliez tous en langue ». Et d'ailleurs, Paul pratique lui-même ce don. Mais il reproche aux Corinthiens de mal l'utiliser. Parler est l'une des facultés les plus élaborées. Ça permet d'exprimer un ressenti, des émotions qui ne sont pas tangibles et pas non plus toujours visibles. La parole nécessite aussi une grande intelligence. C'est l'une des facultés qui fait de nous des images de Dieu, des êtres en relation les uns avec les autres. La parole est donc très importante. Au verset 2, Paul englobe dans la parole le don de prophétie, le don d'annoncer des choses à l'avance. Et si on lit l'Ancien Testament, on voit qu'il y a souvent des mises en garde contre les faux prophètes qui se disent inspirés par Dieu, mais qui mentent. Ils donnent des faux sentiments de sécurité. Donc, on le voit, la prophétie doit être utilisée avec amour, avec sagesse, en étant soumis au Seigneur. Mais c'est aussi un don très important. Paul ajoute encore le don des mystères et de la connaissance. Et là, je pense que Paul est assez polémique, parce que dans la Grèce du 1er siècle, donc Paul s'adresse aux Corinthiens qui se trouvent dans le Péloponnèse, et dans la Grèce du 1er siècle, eh bien les cultes, il y avait de nombreux cultes aux divinités, et ça impliquait de suivre un parcours initiatique pour être initié au mystère et à la connaissance de la divinité. C'est un petit peu comme si Paul laisse planer le doute, comme s'il disait aux chrétiens de Corinthe, « En pratiquant vos dons de mystère et de connaissance, êtes-vous vraiment inspirés par Dieu ? Ou bien est-ce que vous vous contentez de recopier les cultes païens en les « christianisant » entre guillemets ? Parce que pour Paul, il est évident que le seul vrai mystère, c'est celui de Dieu, comme il l'a dit au chapitre 2. Il dit dans les versets 1 et 2, « Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Tel est le mystère de Dieu, son plan de salut conçu dès avant la fondation du monde. Paul refuse ainsi que l'Évangile ressemble à la spiritualité ambiante, à la mode, parce qu'une telle confusion viendrait annuler la croix où Jésus a porté nos péchés. Paul interroge encore le zèle des Corinthiens en disant « Si j'avais toute la foi pour déplacer des montagnes, mais pourtant, me direz-vous, cette foi enthousiaste et vivante, n'est-ce pas ce que Jésus a recommandé à ses disciples ?» Oui, oui, bien sûr, dit Paul, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et donc ma foi, aussi exubérante et extraordinaire soit-elle, n'est rien. Dans les versets 2 et 3, Paul accumule les tout. Même si j'ai le don de tous les mystères, toute la connaissance, toute la foi, si je distribue tous mes biens, eh bien cela n'est rien. Si je n'ai pas l'amour, je pourrais même livrer mon corps. Là aussi, Paul est polémique parce que Jésus avait dit à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Paul démontre ainsi que tous les dons spirituels peuvent être détournés de Dieu, récupérés pour notre ego, tellement nous sommes tordus. Il s'agit donc de pratiquer ces dons, oui, mais avec sagesse, humilité. Il n'est pas question de se méfier ou d'avoir peur de ces dons, car ils sont très utiles pour rendre gloire à Dieu. Mais nous devons les vivre dans l'amour du Seigneur, dans l'amour les uns pour les autres, en étant soumis à la volonté de Dieu. Par définition, les dons nous sont donnés par Dieu. Ils ne sont pas là pour nous mettre en avant. Les dons les plus extraordinaires ne sont pas des mérites. Nous avons tous tout reçu par grâce, par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et dans ces versets, on sent vraiment tout l'amour de Paul pour secouer les Corinthiens, car il est inquiet de voir tant de rivalité et de concurrence entre eux, alors que nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Et j'ai essayé de vous mettre des couleurs, ça apparaît peut-être pas très bien à l'écran, mais pour voir le parallélisme dans ces versets, vous avez la conclusion du verset 1, d'un côté, je ne suis que du bruit, et la conclusion du verset 3, de l'autre côté, je ne sers à rien. Et puis, au cœur de ces versets, au verset 2, vous avez le cœur du problème et le plus effrayant. Si je joue à être spirituel, alors je ne suis rien. C'est pas seulement que je fais du bruit ou que je ne sers à rien, c'est que je ne suis rien. Et l'exubérance de ces cultes, si, en apparence si spirituels, cache en réalité une vanité qui mène à une vacuité devant Dieu. Je ne suis rien. Or, devant Dieu, nous devrons tous un jour rendre des comptes. Alors, fuyons toute hypocrisie religieuse et recherchons l'amour véritable, comme Paul nous y invite dans les versets 4 à 7. Que je vais lire maintenant. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Mais il se réjouit. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Paul construit à nouveau son argumentation en trois parties. D'abord, ce qu'est l'amour, ensuite, ce que l'amour ne fait pas, et puis finalement, ce que l'amour fait. La partie centrale est la plus développée avec ses propositions négatives, ce que l'amour ne fait pas. Et là encore, Paul est polémique parce que les comportements qu'il réprouve, eh bien, c'est justement ce que faisaient les Corinthiens. Mais l'apôtre prend soin d'enrober son message en insistant avant et après sur la beauté de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est à l'image de Dieu qui s'est révélé à Moïse comme un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Ce verset qui vient d'Exode 34 est magnifique. Et il est d'autant plus magnifique quand on voit dans quel contexte il a été donné. En effet, vous aviez Israël qui était esclave en Égypte et Dieu qui l'avait délivré à main forte et à bras étendus avec de grands miracles. Dieu venait de donner la loi à Moïse pour faire alliance avec Israël, son peuple. Et voilà que Moïse redescend de la montagne et il découvre le peuple en train de faire la fête à un veau d'or. Il s'est vautré dans l'idolâtrie et le peuple est dans le plus grand désordre. Alors Moïse brise les tables de l'alliance avec Dieu et plus de 3000 Israélites meurent en ce jour-là. Mais Moïse décide de remonter au Sinaï sur la montagne pour intercéder, c'est-à-dire se placer entre Dieu et le peuple pour demander grâce. Et après une longue prière d'intercession, Dieu accepte sa demande. Il refait alliance, il lui redonne des tables gravé avec son alliance. Et c'est là qu'il se présente à Moïse en disant « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Son amour, on le voit là, n'est pas un vague sentiment passager, mais un engagement envers son peuple, envers nous, et un engagement pour toujours. On le voit plus tard avec l'engagement, il envoie son fils dans ce monde. Et comme l'a lu René tout à l'heure, Dieu lui-même est amour. Alors, bien sûr, si nous voulons être ses enfants, il nous faut apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Cet amour, ce n'est même pas un défi que je pourrais vous lancer pour la semaine prochaine. C'est vraiment une impossibilité. Et à chaque instant, nous devons dépendre de Dieu, nous laisser remplir de son amour pour qu'à notre tour, nous soyons rendus aptes à aimer. Sinon, c'est vraiment impossible. L'amour est plein de bonté. On pourrait traduire aussi, parce que le verbe original en grec veut aussi dire serviable. Il y a aussi cette notion-là dans le fait d'être bon, c'est être serviable. L'amour est serviable. L'amour, ce n'est pas juste un truc agréable qui me fait me sentir bien. Non, l'amour vrai est un engagement. Il se donne à l'autre dans un esprit de service, de simplicité et sans calcul. Voyons maintenant ce que l'amour ne fait pas. L'amour n'est pas envieux. Si j'ai trouvé mon bonheur en Jésus-Christ, je n'ai rien ni personne de plus grand et de plus merveilleux à désirer. Alors bien sûr, vous me direz, il est normal et bon d'avoir des désirs lorsqu'ils correspondent à la volonté de Dieu. Mais le danger avec l'envie, le fait d'être envieux, c'est de placer son désir comme un but ultime que je dois absolument avoir pour être heureuse. Ce qui conduit à deux conséquences tragiques. C'est d'abord que je suis prête à faire n'importe quoi pour réaliser cette envie, ce désir ultime. Je peux voler, extorquer, écraser l'autre, etc. Et le second danger, c'est que l'objet de mon désir est si fort que j'ai l'impression que je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas telle richesse ou si je n'ai pas un conjoint, si je n'ai pas des enfants, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela. Et l'objet de mon désir est si fort que finalement, il prend la place de Dieu. L'amour n'est pas envieux. Ne soyons pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. En effet, si je me sais aimé par Jésus-Christ, enfant de Dieu, alors je n'ai aucun besoin de me mettre en avant. Tout me vient du Seigneur. Les dons qu'il m'a accordés sont des cadeaux qui me réjouissent, bien sûr, mais pour lesquels je n'ai aucun mérite. Ils sont là pour servir les autres et rendre toute la gloire au Seigneur. Et soyons sur nos gardes, parce que se vanter est vraiment une pente glissante, comme le disent les proverbes. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16-18. L'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. En effet, la malhonnêteté et l'intérêt personnel, c'est faire de soi un petit Dieu au centre de tout. Or, ce petit Dieu, mauvais et capricieux, n'hésite pas à mal agir pour obtenir tout ce qu'il veut. Alors là aussi, soyons sur nos gardes. Quand nous avons des choix à faire, des décisions à prendre, posons-nous cette petite question. Est-ce que mon choix vise d'abord l'intérêt du Seigneur et des autres, ou bien d'abord, est-ce qu'il est là pour flatter mon ego ? L'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. On pourrait paraphraser en disant que l'amour n'est pas complotiste. Alors bien sûr, le croyant n'est pas naïf, il sait que dans ce monde, le mal sévit, oui. Mais le croyant cherche d'abord à aimer, pour être témoin de Jésus-Christ. En voyant le mal autour de nous, mais bien sûr qu'on est irrité, Dieu aussi est irrité. Mais nous, le problème, c'est que nous sommes faibles. et que notre irritation excite en nous de la révolte. Et puis au bout du compte, notre révolte contre le mal autour de nous devient une révolte contre Dieu qui, d'une certaine façon, permet le mal dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent ». Il dit cela dans Deutéronome 32-35. Oui, un jour Dieu jugera. Alors laissons-lui la vengeance. Aujourd'hui, on déteste parler du jugement parce que cela donne l'impression que Dieu serait un justicier dur et implacable. Mais en réalité, chaque fois que la Bible parle du jugement, elle le présente comme un jour de joie pour les croyants fidèles. Oui, un jour, la vérité éclatera, la justice sera faite. D'ailleurs, ici, dans notre texte aussi, on voit que l'amour se réjouit de la vérité, de la justice, parce qu'il y aura une merveilleuse consolation. Parce qu'en voyant le mal dans ce monde, nous sommes tous profondément blessés. Et nous avons besoin de la consolation, de la tendresse du Père envers ses enfants bien-aimés. Laisser la vengeance à Dieu, ce n'est pas pour autant devenir béat ou naïf, non. Notre amour doit agir. Comme le dit notre texte, l'amour pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces quatre « tout » sont à comprendre ici comme des adverbes qui signifient « entièrement ». L'amour pardonne tout, ça signifie qu'il pardonne entièrement. Si quelqu'un vient me demander pardon, je vais donc m'appliquer à oublier le tort que cette personne m'a commis, sans garder rancune ni enfermer l'autre dans ses péchés, parce que l'amour prend plaisir à libérer l'autre comme Christ m'a libéré de mes péchés. L'amour croit tout, c'est-à-dire qu'il croit entièrement, il donne toute sa confiance à l'autre, car l'amour reconnaît chez l'autre une personne créée par Dieu, une personne digne de respect, digne de confiance. L'amour espère tout, il espère entièrement, c'est-à-dire qu'avec Dieu, eh bien, nous gardons toujours cette espérance de voir l'autre, et puis moi aussi, l'autre progresser. Et enfin, l'amour endure tout, il endure entièrement, c'est-à-dire qu'il est prêt à remettre toute sa vie entre les mains du Père, comme Jésus l'a fait sur la croix. Et en somme, au cœur de ces versets-là, nous trouvons un superbe portrait de Jésus-Christ. Lui dont l'amour a toujours été bon, patient, serviable. Jésus a toujours su résister au mal en ne faisant pas ce que l'amour réprouve, et il a toujours accompli ce que l'amour approuve. Oui, Jésus nous a manifesté un amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Et ces versets sont vraiment son portrait. Je vous invite à lire maintenant la fin de notre chapitre. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Paul revient dans ces derniers versets aux dons spirituels pour affirmer qu'ils seront abolis. Ça n'a pas dû forcément faire très plaisir à ces Corinthiens si zélés pour les dons. La prophétie, les langues, la connaissance sont certes des dons glorieux, mais tellement partiels. Ils nous font entrevoir le royaume de Dieu. comme quand on aperçoit un petit rayon de lumière par le trou d'une serrure, mais c'est seulement lorsque la porte s'ouvre que nous voyons la lumière éclatante. Alors, nous entrerons dans la glorieuse présence de Dieu. Nous connaîtrons de façon si parfaite que ce que nous vivons aujourd'hui sera aboli. Paul prend l'image d'un enfant qui, devenu adulte, abolit sa vision enfantine du monde. Ou il prend aussi l'exemple d'un miroir, parce qu'à l'époque, les miroirs ne rendaient qu'une image assez floutée de la réalité. Et telle est notre situation. Le royaume de Dieu est déjà là, nous le percevons dans nos vies. Mais lorsque Jésus reviendra, sa gloire sera indescriptible, merveilleuse, au-delà de tout ce que on n'aura jamais pu comprendre et imaginer. Alors, je connaîtrai aussi comme j'ai été connu. Le verbe connaître dans la Bible est vraiment un verbe très fort qui marque une reconnaissance de qui je suis, de mon identité. Nous sommes connus par ce Dieu qui nous a voulu dès avant la fondation du monde. Si ma vie est ainsi connue et reconnue par Dieu, un jour elle le sera aussi par tous ses fils et filles, tous ses frères et sœurs de tous les temps, de toutes les nations qui viendront adorer l'Éternel. Il n'y a aucune réalisation personnelle et communautaire plus forte que la vie éternelle où on sera tous connus et reconnus les uns des autres et de Dieu. Nous vivrons éternellement dans l'amour du Père. Oui, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance, parce que l'amour nous fait ressembler à Dieu qui est amour. Or, l'amour, c'est ce qui manque le plus aux Corinthiens et à nous, avouons-le. Il y aura encore un dernier diapo pour conclure. L'hymne à l'amour est au cœur de notre texte. Avec au cœur de notre texte, il y a ce merveilleux portrait de Jésus-Christ. Un tel amour, me direz-vous, n'est-ce pas un idéal inatteignable ? Oui, par nos propres forces, bien sûr, on n'y arrivera jamais. Mais comme Paul l'a dit au chapitre 12, par la foi, nous avons été intégrés au corps du Christ, dont il est la tête. Et Dieu, en envoyant son Fils dans ce monde, s'est engagé. Et il nous a fait la promesse de nous associer à sa communion d'amour. Il attend simplement notre réponse, notre engagement à suivre Jésus-Christ, à lui faire confiance. Alors, laissons-nous transformer par son esprit à l'image du Père, de ce Dieu d'amour qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Lui seul nous donnera la capacité d'aimer à notre tour. Amen.